Bien, bonjour à tous. C'est vrai qu'on a de bons souvenirs ensemble. Et je suis très content d'avoir de partager ce moment avec vous. Je ne sais pas si Jean vous a un peu averti, mais je lui avais demandé de le faire pourtant. Hein. dans la forme, disons que très fréquemment, quand je prêche, je sollicite, je pose des questions. Voilà, donc j'espère que ça ne dérangera personne. Oui, tout à fait. J'ai vu que ça répondait, donc j'étais plutôt rassuré. Donc, pour ce message, je compte aussi sur vous. Le thème, on pourrait dire, que j'ai choisi de partager avec vous, c'est, je vais le formuler sous forme de résultat, c'est « Me voici, envoie-moi ». Et je vais commencer par vous raconter quelque chose. Je dois dire que j'ai un peu de mal à rester derrière une chaire, donc je vais me promener sûrement. Tout commence par une journée banale. La scène se passe il y a bien longtemps. Nous sommes dans le désert. Un berger, immigré, ça existait aussi à l'époque, garde un troupeau. Il est assez âgé. Mais il démontrera au cours des décennies qui suivront qu'il est encore vigoureux. Dès son plus jeune âge, il vécut une escapade incroyable qui le propulsa quelques années plus tard à la cour d'une des plus grandes puissances économiques et culturelles du moment. Témoin d'une injustice à l'encontre d'un immigré, il prendra sa défense en pratiquant une justice radicale et définitive. Par crainte des représailles, il s'exilera. Notre homme se retrouve donc dans cette région désertique mentionnée au début de notre récit. Il y trouvera une femme, fille d'un notable du pays. Et il s'y installera comme simple berger. À l'occasion d'une journée ordinaire où il conduit le troupeau dont il a la garde, au milieu des étendues arides et sablonneuses, jalonnées çà et là par des montagnes grises et ocres qui surgissent du sable en falaises abruptes et déchiquetées, il est témoin d'un embrasement insolite et fait une rencontre inoubliable. Pour lui, dès lors, il y aura un avant et un après, ce jour qui l'emmènera à reprendre le chemin du pays de sa jeunesse. Il y a des demi-tours qui mènent plus loin que le chemin d'un jour. Ça sera son cas. Tout d'abord hésitant, voire plus, il deviendra l'acteur principal, après son commanditaire, d'un voyage aux lignes courbes interminables, comparativement à la distance parcourue. Durant tout son périple, il sera porté et habité par celui qu'il a rencontré et qu'il a embauché pour une charge dont il verra le fruit sans pour autant le déguster. Qui est cet homme ? C'est bien. Alors, je vous propose la lecture dans l'Exode, bien sûr, de 13 versets dans le chapitre 3. « Exode chapitre 3, les versets 1 à 13. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici !» Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs. » Car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour que j'aille vers le Pharaon, et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël ?» Et il dit, « Parce que je serai avec toi. Et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé, lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et Moïse dit à Dieu, « Voici quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, « Quel est son nom ?» Que leur dirai-je ? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Qu'est-ce qui vous touche dans ce texte ? Qu'est-ce qui vous touche dans ce texte ? Alors, Dieu parle à Moïse, oui. Dieu parle. Oui, il parle de manière explicite. Hein? Tout à fait. J'ai deux questions à vous poser, déjà là. Mais la première, c'est ça. Qu'est-ce qui vous touche ?
Tu utilises des gens insignifiants ? Un berger ?
Un berger.
Une grande mission ?
Ça, c'est la grâce de Dieu, oui. Hein? Et il va lui confier une mission d'exception, importante, une charge lourde.
Quand il était en Égypte, il se sentait capable de faire cette mission. Et là, quand Dieu l'appelle, il se sent plus capable de la faire.
Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je ne vais pas aborder directement ce point, mais... dans le sens de ce que tu viens de dire, je vais aborder ce point. Ça me paraît important.
Moi, c'est le verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu.
Oui. J'ai vu. J'ai entendu. Je connais. Je descends. Hein? Il y a quatre verbes là. Ça nous rappelle Jésus, hein, bien sûr.
C'est même pas je descends, c'est je suis descendu.
Je suis descendu, oui. Oui.
Et s'il revenu à la maison, s'il racontait ce qu'il avait vécu, très probablement les gens autour de lui, peut-être pas son beau-père, mais auraient dit il est fou.
Peut-être bien. Le soleil lui a tapé sur la tête et c'est bien possible. Alors maintenant, deuxième question. Mettez-vous à la place de Moïse. Qu'est-ce que vous dites de l'attitude de Moïse ? Parce que, bien sûr, on aurait pu tout lire, parce qu'il faut lire les chapitres 3 et 4, normalement. Hein, mais vous voyez, ça fait un petit peu long. On va beaucoup partager sur des versets des chapitres 3 et 4. Mais il y a déjà des ingrédients qui peuvent nous permettre de caractériser l'attitude de Moïse, ou peut-être qu'on se reconnaisse aussi dans cette attitude. Alors comment vous la percevez ?
Moïse ne se sent pas trop capable.
Oui. Pardon, j'ai pas bien compris.
Après, il dit aussi, Moïse, en fait, il acquiesce quand même parce qu'il dit « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai que Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. » Et après, bon, il invite après. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? En même temps, il s'adresse à Dieu pour savoir comment faire.
Oui, disons que.
Ben,
d'une certaine manière, il dit « Me voici ». Ensuite, il dit « J'irai ». Mais après, peut-être, il se projette en situation et il se dit, mais oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Et qu'est-ce qui va m'arriver ?
Il demande des il veut un petit peu plus d'explications.
Il aimerait bien le cadre, quand même. Hein. Ouais. Il aimerait bien un cadre hein, avec une feuille de route. Mais... Oui.
Dieu,
C'est ça. Oui.
Et la réponse de Dieu est extraordinaire.
C'est. Enfin, on ne va pas traiter de ça parce que ça fait un sujet en tant que tel. Hein. Quand il dit je suis celui qui suis, c'est vertigineux, quoi. C'est absolument vertigineux. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, c'est vertigineux, quoi. On peut. Dès qu'on dit quelque chose de plus, on porte atteinte quelque part à ce qu'il est, quoi. Donc, mais bon, on va pas traiter de ça aujourd'hui. Ok, d'autres choses, non ? Oui ? Quelqu'un veut dire encore quelque chose ? Alors, je vais partager avec vous quelques réflexions en prenant deux angles dans ce que nous avons lu. Il y a, on pourrait dire, le côté de Dieu, et puis après, il y a le côté de Moïse. Et bien sûr, puisque nous ne sommes pas Dieu, je m'appesantirai un peu plus sur l'attitude et les réactions de Moïse. Alors, déjà, on pourrait dire que du côté de Dieu, il y a pour moi quatre points simultanés que je vais un petit peu détailler, pas trop longtemps. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de pendule ici, c'est très dangereux avec moi. Donc je vais simplement quitter ma montre pour surveiller un petit peu. Pour me rassurer. Quatre points simultanés. Il y a, premièrement, Dieu qui appelle Moïse. Ensuite, Dieu se révèle à Moïse. Et il se révèle de deux manières. Et on voit toute la sagesse de Dieu qui va se révéler d'une manière personnelle, déjà. Et puis après, on pourrait dire... sous un angle universel. Et puis, Il lui annonce la mission qu'il lui confie. Et puis, il va lui donner aussi beaucoup de ressources, beaucoup de garanties pour sa mission. Ça, c'est le côté de Dieu. Et c'est intéressant de voir ça en simultané. Dans un même temps, Moïse a entendu tout ça. Alors, c'est le contexte qui concerne Moïse. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les vies. Mais j'ai rencontré un pasteur il y a quelques années qui a dit « Je me suis converti et j'ai reçu mon appel en simultané. » Ça n'a pas été comme ça dans ma vie, mais dans certaines vies ça peut exister. Et en tout cas pour Moïse, tout est là en l'espace de, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais un quart d'heure peut-être. Enfin un peu plus, hein, si on fait les chapitres 3 et 4, ça a dû durer un peu plus longtemps. Mais ça s'est passé en un seul et même moment. Alors, donc au verset 4 du chapitre 3, on voit que Dieu appelle Moïse. Du milieu du buisson, il l'appelle. Ensuite, Dieu se révèle à Moïse, et je disais sous deux angles. Déjà un angle personnel. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que je ne suis pas sûr de parler tout le temps. Oui. Sous un angle personnel, il va pas commencer par dire « Je suis celui qui suis ». Mais ça aurait été, déjà même à ce moment-là, quand il l'a dit à Moïse, ça devait être quand même un drôle de rébus pour Moïse, il a dû se gratter la tête. Mais il n'a pas commencé avec ça. Il a dit « Je suis le Dieu de ton père ». Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était le Dieu des repères que Moïse possédait déjà. Et ça, c'est important. On a parlé tout à l'heure dans le temps du culte, dans les prières, de ce désir de partager la foi, partager notre espérance. C'est important, quand on la partage, de la partager en prenant en compte les repères pour que ce que nous allons dire soit audible, compréhensible, explicite. Dieu s'est occupé de ça. Jésus, dans Jean 12, il dit cette phrase, je cite la version Darby, là, « J'ai reçu du Père ce que j'avais à dire et comment j'avais à parler. » Jésus aussi s'est occupé du comment. Donc nous aussi. En tout cas, ici, en même temps qu'il se révèle comme Dieu dans le buisson, il dit qu'il est le Dieu dont il a déjà entendu parler. Et accessoirement, enfin c'est peut-être pas accessoire, mais on pourrait dire qu'en même temps, il lui dit « Maintenant, choisis. Je te demande de choisir. Tu es né hébreu. Tu as grandi à la cour d'Égypte. Donc, tu as le choix. Tu as le choix. Est-ce que tu es égyptien? Est-ce que tu es hébreu? » Et il lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il lui dit, « Mais maintenant, tu choisis, tu es hébreu. » Il lui révèle qui il est en même temps qu'il se révèle à lui. Alors, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, des versets 7 à 9, Dieu révèle aussi à Moïse qu'il voit la détresse de son peuple et l'injustice qu'il subit. Dieu voit notre détresse. Dieu voit les injustices que nous subissons. Il entend nos cris. Il entend leurs cris. Il connaît leurs douleurs. Et il est descendu pour les délivrer, les conduire dans un pays béni. Au verset 10, il annonce la mission qu'il lui confie, qu'il lui détaillera dans la suite du passage, dans les versets 9 à 18, et puis dans la suite des chapitres. Entre autres, la visite auprès du Pharaon. Alors, je rappelle que le Pharaon que Moïse avait connu est mort. Donc, comme il avait fait quelque chose, quand j'ai parlé de justice brutale et définitive, enfin, quelque chose comme ça, on se rappelle que Moïse, pour défendre un Hébreu, a tué un Égyptien. Il était obligé de s'enfuir, c'est pour ça qu'il était dans le pays de Madian. Donc, il va aller voir le Pharaon, enfin, c'est la mission qu'on lui confie, il y aura des miracles, et puis il aura à conduire le peuple. Et dans les chapitres 3 et 4, ce serait long de répertorier chaque verset là tout de suite, mais il va lui donner toutes les ressources et les garanties pour sa mission. La promesse de sa présence, je serai avec toi. Au verset 12, alors je vais peut-être... Il lui dit, parce que je serai avec toi. Donc c'est vraiment, c'est une promesse, entre autres celle-là. Par le fait qu'il se décrit, donc là on l'a dit, on l'a déjà dit, par le fait qu'il révèle son nom, qui est le Dieu de son père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il est ce Dieu éternel, immuable, je suis celui qui suis. Mais par des signes aussi. Le premier signe, c'est qu'il est à l'endroit, hein, il est à la montagne d'Horeb, il est à l'endroit où... quelques années plus tard, eh bien, Dieu se révélera à Moïse en lui donnant la loi. C'est ce même endroit. Il y a aussi, au verset 12 du chapitre 3, non, ça c'est j'ai mis les versets après, excusez-moi, je... donc, Horeb, la montagne de la loi, c'est le verset 12 du chapitre 3, et puis il y a le serpent. Le serpent, donc c'est le bâton de Moïse qu'il va jeter par terre, qui va se transformer en serpent. Il y a la main lépreuse, il va mettre la main dans son côté. Dieu va lui demander de la mettre, il va sortir lépreuse, il la remet et elle est guérie. Ce sont des signes que Dieu lui donne pour attester que c'est bien lui qui lui a parlé. Et puis, il y a aussi le dernier signe qu'il lui donne, c'est l'eau transformée en sang. Tu prendras de l'eau, tu la verseras sur la terre, et elle se transformera en sang. Et ça, c'est au chapitre 4 et au verset 9. Et puis, la dernière ressource et garantie qu'il va lui donner, eh bien, c'est un accompagnateur, en la personne d'Aaron, son frère. Ça, c'est le côté de Dieu. Et puis, il y a le côté de Moïse. Alors Moïse, il voit le buisson qui ne se consume pas. Quand même, c'est particulièrement étonnant. Au verset 4 du chapitre 3, il répond à l'appel de Dieu et dit « Me voici ». Il entend la première révélation. Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les versets 7 à 9, Moïse découvre un Dieu qui a de la compassion pour son peuple et qui a décidé de le sauver. Et au verset 11, première réaction de Moïse. Qui suis-je ? Suivi de bien d'autres réactions qu'on nommera... Esquive, excuse, incapacité, autodisqualification, faiblesse est là tout au long des chapitres 3 et 4. On va voir, c'est tout ce que Moïse va imaginer, peut-être pas pour ne pas faire, mais en tout cas ça ressemble bien à ça. On va essayer de les répertorier ensemble, et il y en a 7. Au verset 11, première excuse. Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Qui suis-je? Et là, il va exprimer le sentiment qu'il a de ne pas être légitime. Qui suis-je? Au verset 13, et on l'a déjà dit tout à l'heure, il dit « J'irai trouver les Israélites et je leur dirai « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » La première réaction de Moïse, c'était une absence de légitimité, et là, on pourrait qualifier ça d'absence de message. Il ne saurait pas quoi dire. Le troisième point, au chapitre 4 et au verset 1, « Et s'ils ne me croient pas, et ne m'écoutent pas, et me disent « L'Éternel ne t'est pas apparu », c'est l'absence d'assurance. Il manque, en tout cas, il déclare qu'il manque d'assurance par cette question. Dans la deuxième partie du verset 3 de ce même chapitre, Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforme en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. On pourrait qualifier ça d'absence de courage. Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, nous dit quelque chose. Mais avant, je vais dire, normalement, devant le serpent, on ne fuit pas. On lui résiste et c'est lui qui fuira. Bien sûr, c'est un serpent. Là, je prends le sens symbolique du serpent. Mais je pense que dans la vie chrétienne, quand on est engagé dans un service et que le diable montre son nez, on ne fuit pas, on résiste. Et c'est lui qui fuira. Quelque chose qu'on connaît bien, généralement, de la part de Moïse, par rapport à ses dénégations. « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date d'hier, ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées, ou dans d'autres versions, pesantes. » L'absence d'éloquence et d'élocution. On en est à 5. Hein. Versets 12 et 13. « Maintenant donc, dit Dieu, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse rétorqua, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. » J'ai appelé ça l'absence d'énergie, mais c'est aussi une forme de démission. Mais démission. Dieu l'appelait à une mission et il est dans la démission. Et puis, le septième point. « Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple. » Et là, Moïse exprime le fait que ce qu'il a fait dans le passé, alors on n'est pas dans, c'est dans la liste de tout ce que Dieu, de tout ce que Moïse finalement a partagé avec avec Dieu, et c'est au chapitre 5 et au verset 23, quand il dit ceci: « Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple. » C'est l'absence de réussite. D'un point de vue humain, il n'a pas réussi. Parce que, normalement, son intervention aurait dû provoquer un mieux-être qui n'est pas là. Le mieux-être n'est pas au rendez-vous. Il faut avouer que la liste énumérée par Moïse est bien longue. Mais, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, cette apparente humilité et toutes les raisons qu'il donne à Dieu pour ne pas le servir provoquent la colère de Dieu. Il est dit au verset 14: « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Et malgré cette colère, la grâce de Dieu est toujours là. Et Dieu va sortir Moïse de l'impasse dans laquelle il s'est enferré par la liste de ses excuses, et entre autres, il désignera son frère Aaron pour être sa béquille vocale, on pourrait dire. Il lui dira: il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Je trouve que ça, c'est très encourageant. Est-ce que je peux me permettre, Jean, de raconter une petite histoire qui te concerne? Il y a bien des années, il y a bien des années, nous, avec un autre frère, donc cet autre frère et moi, on organisait quelque chose à Chamaloc. Je ne sais pas si vous connaissez la Maison du Rocher dans la Drôme, qui est un centre d'accueil, voilà. Et on voulait organiser un week-end avec les ados de l'église. Et puis, en réfléchissant avec ce frère, on s'est dit, mais on ne va pas y arriver tous les deux, il nous faut une troisième personne. Puis on connaissait un petit peu Jean, qui souvent nous disait, mais non, mais je ne suis pas capable, c'est pas possible. Mais bon. Mais il ne le disait pas de manière systématique. Et on a prié tous les deux. Et une fois qu'on a eu fini de prier, on a dit, ben voilà, on va proposer ça à Jean. Et si le seul motif qu'il nous donne, c'est qu'il n'est pas capable de s'en occuper, on lui dira: ce n'est pas recevable, tu viens avec nous. Et j'ai appelé Jean, je lui ai présenté le projet, et il m'a dit: mais non, mais franchement, Pierre, non, mais non, je ne suis pas capable. Je lui ai dit: tant pis pour toi, tu es obligé de venir. Et il est venu. On a passé un week-end formidable, mais ça nous ressemble. Ça, c'est anecdotique, et je le dis de manière très, très amicale, mais ça nous ressemble. Ça nous ressemble, et il faut parfois un déclic, et il faut parfois une grâce particulière de Dieu, comme Aaron qu'il met comme adjoint de Moïse, pour que, on fasse le premier pas. Bon, Jean, ce n'était pas son premier pas dans le service, mais c'est déclencheur. Ça peut être déclencheur. Alors, en fait, ce texte doit être un encouragement pour nous. Un encouragement pour chacun de nous pour servir. Ce n'est pas une injonction. J'ai beaucoup de mal avec les injonctions, mais par contre les encouragements, c'est important. Et la parole de Dieu est remplie d'encouragements. Alors, ce texte est là pour nous encourager, si on ne l'a pas fait, à entrer en relation avec ce Dieu qui se révèle à travers un buisson et qui s'est révélé pour ceux qui sont enfants de Dieu de toutes sortes de manières. Sur une longue période ou à un instant T, on a nos enfants, en 5 minutes, il nous a dit, eh bien en 5 minutes j'ai compris ce que je n'avais pas compris en 25 ans. Et puis si on est enfant de Dieu, à le découvrir toujours plus. Et puis, c'est un encouragement aussi à prendre conscience que dès l'instant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déclarés par la parole de Dieu comme étant des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Vous allez me dire, une pierre, c'est plutôt inerte. Eh bien non, Dieu nous appelle ces pierres vivantes. Chacun de nous ici, enfants de Dieu, nous sommes une pierre vivante. Ce n'est pas à moi de le déclarer. Moïse ne se sentait certainement pas une pierre vivante. Dieu l'avait déclaré pierre vivante. Et en tant que tel, nous sommes serviteurs de notre Seigneur et Sauveur. Une pierre vivante, elle se met à l'emplacement où Dieu l'a prévu, et elle est là, et elle participe à la construction de l'édifice. Il ne faudrait pas que le peuple de Dieu soit un édifice avec des tas de trous dans tous les sens qui font passer tous les courants d'air. Et donc, en tant que tel, nous avons vraiment à prendre notre place dans cet édifice, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos incapacités, parce que Dieu va s'en arranger de tout ça. Quels que soient nos handicaps. Un frère me disait, eh bien, il faisait partie du trio dont Jean a parlé tout à l'heure, il me disait, il y a une dizaine d'années, quand on décide de ne pas faire, il y a toujours derrière un mensonge à soi. Et ces mensonges sont largement distillés par l'ennemi qui veut nous convaincre que comme nous ne sommes rien et nous sommes complètement incapables, eh bien nous ne pouvons donc rien faire. Mais non, nous sommes des pierres vivantes. Cependant, je pense qu'il y a 2 écueils à éviter. Ici, à travers Moïse, on en a un. Et je vais peut-être commencer par celui-là, et du coup, je l'appellerai peut-être le syndrome de Moïse, mais ce qui a été aussi le syndrome de Gédéon, et de bien d'autres, y compris nombre d'entre nous, qui nous sous-estimons. Et quand on se sous-estime, on s'immobilise, on s'éteint, on n'est donc plus une pierre vivante. Nous sommes, quelqu'un a dit dans sa prière que nous étions, je crois que c'est dans une prière, celle de la terre, mais on est aussi la lumière du monde. Enfin, c'est Jésus, mais il se reflète, nous le reflétons. Eh bien, à ceux-là, comme à Gédéon, et à tous ceux d'entre nous qui sont dans cette situation, on pourrait dire, dans ce syndrome, eh bien, je vais simplement répéter ce que l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon. Gédéon, avant même que Gédéon dise quoi que ce soit, il lui dit « Bonjour à toi, fort et vaillant homme. » Et Gédéon disait « Mais je suis le plus petit de la maison de mon père, je suis le plus dans la plus petite des tribus. » tout était petit. Tout était minuscule quand il se regardait. Et Dieu s'approche de lui et lui dit « Bonjour à toi, fort et vaillant homme. » Et puis, il y a le deuxième syndrome qui n'est pas présent dans ce qu'on a lu et que j'appellerais le syndrome de Pierre et aussi de bon nombre d'entre nous qui répondent plein d'assurance à Jésus « Je laisserai ma vie pour toi. » et qui jettent l'éponge à la première difficulté, ou qui construisent, ou qui continuent, mais en construisant avec des matériaux un peu trop personnels. À cela, Jésus dit, comme il dit à ses disciples, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, ne pensez pas qu'il y a deux catégories de chrétiens, ceux qui sous-estiment et ceux qui se surestiment. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'on peut être à la fois l'un et à la fois l'autre, tout dépend des domaines qu'on a à aborder. Et puis, il me semble encore qu'on ne pourra pas éviter ces deux écueils par la simple introspection. Et il me semblait que pour éviter ces écueils, il y avait peut-être trois choses, il y en a sans doute d'autres, je ne prétends pas être exhaustif sur ces réflexions. Premier point, la simple acceptation qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi tout naturellement serviteurs. Ça ne constitue pas un grade en plus. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes pierres vivantes, nous sommes serviteurs. Quelquefois, alors je ne connais pas le point de vue de tous ici, mais quelquefois dans les milieux évangéliques, on fait une différence entre être enfant de Dieu et être disciple. Moi, ça me gêne un petit peu, ça. Personnellement, je pense que dès que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à l'école de Dieu. Dès que nous sommes enfants de Dieu, nous avons à nous mettre en route avec lui et pour lui. Donc, premier point, la simple acceptation qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi tout naturellement serviteurs. Deuxième point, la simple obéissance à l'appel universel de Dieu pour le servir. Je rencontre souvent des personnes, mais moi je suis passé aussi par là, donc on est tous faits de la même manière. Mais souvent on attend, et ça peut arriver, un appel personnel, ou une indication claire sur dans quel domaine, sans forcément avoir un appel personnel, mais dans quel domaine je vais pouvoir choisir de servir. Et il y a des gens qui sont bloqués comme ça pendant des années parce qu'ils n'ont pas l'éclairage. Mais je crois que ce n'est pas comme ça. Nous sommes enfants de Dieu, et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà appelés. N'attendons pas l'appel, nous sommes déjà appelés. Puisque nous sommes déjà pierres vivantes et que nous faisons partie de cet édifice. Alors, Dieu, pour certaines personnes, il y aura un appel personnel à une mission personnelle, c'est ce qui se passe pour Moïse. Mais ne prenons pas ce genre d'exception pour la règle. Dieu me demande de me mettre à son service. Et je pense que l'attitude d'obéissance ouvre les portes. On essaiera ça parce qu'on se met au service et peu à peu, il y a des choses qui vont se... La route va se dessiner. Et le troisième point, la simple foi que Dieu nous accompagnera, qu'il nous équipera, qu'il nous donnera gratuitement, comme à Moïse, toutes les ressources et les garanties utiles pour notre service. Autrement dit, si je n'ai pas de compétences, je vais dire de manière un peu familière, bienvenue au club des serviteurs. Parce que c'est exactement ça que Dieu attend de nous. Parce qu'il veut nous remplir lui. Il ne veut pas qu'on soit rempli de nous-mêmes. Il veut nous remplir lui. Nous équiper lui. Donc je résume la simple acceptation que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi tout naturellement serviteurs. La simple obéissance à l'appel universel et, on pourrait dire, automatique dès l'instant que je suis enfant de Dieu. Et la simple foi que Dieu sera avec nous, comme il a été avec Moïse. Alors pour conclure, je vous propose trois petits versets. Jésus qui parle à ses disciples, et nous sommes ses disciples, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire établi ? Alors j'ai fouillé un petit peu et en fait établi, dans la racine grecque, je ne suis pas helléniste du tout. Hein, mais la Bible online, ça sert des fois à quelque chose. Établi ici, ça veut dire mis en place, posé, destiné. Ça veut dire que Jésus nous a choisis et il nous a mis en place, il nous a posé, il nous a destiné afin qu'on aille et qu'on porte du fruit et que notre fruit demeure. Deuxième verset, dans Matthieu 25, oui, je n'ai pas donné la référence du premier, c'est Jean 15, verset 16. Deuxième, dans Matthieu 25, Dieu dit, donc dans un temps futur, bien bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Et puis ce troisième verset qu'on trouve dans le chapitre 6 d'Ésaïe. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Alors bien sûr, on est assez fort pour ne pas se sentir concerné par ce verset en disant « Ah, mais c'est Jésus là, hein, dans le ciel, à un moment donné, Dieu a dit « Qui enverrai-je, qui ira pour moi ?» Ben c'est normal, c'est Jésus, il y va. Mais non, c'est Ésaïe. Alors, bien sûr, c'est Jésus. Mais cette parole est révélée à Ésaïe et Ésaïe, il va se bouger et il va payer le prix aussi de son engagement. Dans la mission, il a compris que ça s'adressait à lui. Bien sûr, c'est aussi Jésus, parce qu'il l'a accompli de manière formidable, parfaite, exceptionnelle. Mais qui enverrai-je et qui ira pour nous ? Ça nous concerne. Et notre réponse, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pierre vivante, et je le dis franchement, je n'ai pas envie de vous donner des leçons. J'ai mis des années, certaines fois, à répondre sur des choses qui... peut-être que je n'avais pas envie de faire. Mais néanmoins, ça reste vrai. Ma réponse, c'est... Est-ce que ma réponse, c'est... Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi où tu veux, quand tu veux, pour ce que tu veux. Une dernière question. Je vais la formuler comme ça. Après ce texte magnifique, cet exemple de Moïse, après avoir vu toute la grâce de Dieu avec Moïse, toutes les garanties, la présence, les promesses, les paroles, et tout ça, les signes qu'il lui a donnés, et que je regarde ce qui me concerne dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de ramener? On pourrait dire, qu'est-ce que j'ai envie de ramener à la maison? C'est une question difficile. Enfin, elle est simple, mais elle n'est pas facile.
Oui.
Alors Jésus est avec nous tous les jours. Quand je vais bien, quand je vais pas bien, quand je suis dans une difficulté, quand je suis dans une épreuve, quand je suis dans un service compliqué, quand j'ai des difficultés avec mes collaborateurs, etc., etc. Dans tout ça, il est avec nous. Alors on le sait des fois intellectuellement, mais cette distance entre la tête et le cœur, c'est 30 cm. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais je trouve intéressant, ces 30 cm sont un peu comme la traversée du désert, hein, où Dieu dit à son peuple, je t'ai envoyé 40 ans dans le désert pour que tu apprennes à connaître ton cœur. Et bien ces 30 cm, des fois, nous on met des années à les parcourir. Et on sait des fois les choses, mais ça ne suffit pas de savoir. Hein? Il y a une forme d'incarnation de ce que Dieu dit dans nos vies, hein, qui est indispensable pour répondre, pour arriver à répondre pleinement. Je ne dis pas que j'ai répondu pleinement, je ne sais pas, mais pour arriver à répondre pleinement, il y a cette incarnation de ce qu'est Dieu et de ce qu'il nous a dit et de ses promesses qui est nécessaire.
Et qui suis-je moi? Quand le Seigneur met quelque chose devant nous, une porte qui s'ouvre, on sent un appel, on voit même le Seigneur qui ouvre les portes, et à un moment il y a le doute, face à parfois à l'ampleur, ou que ça nous dépasse, ou que ça ne nous paraît pas possible, qui suis-je moi? Quel est ce projet? Que c'est bien réalisable et de regarder à Dieu, de dire de discerner, de dire tu peux faire ça
parce que je suis avec toi. Oui. Alors tu soulèves un point qui me paraît important, c'est il faut bien commencer mais il faut bien continuer aussi après, hein? Parce que on voit des serviteurs qui s'essoufflent. Alors loin de moi de les montrer du doigt, je suis le premier à m'essouffler, peut-être plus vite que les autres, mais il ne faut pas qu'on décroche. Il ne faut pas qu'on décroche. Si on quitte la barque, on marche sur l'eau et on garde à ses pieds, on s'enfonce quoi, tout de suite. Ok, mais, si vous permettez, je vais prier. On va clôturer ces moments. Seigneur Jésus, on veut te demander que tu nous bénisses. On veut te demander que, en tout cas dans le service et même d'une manière générale, que nous ne soyons pas centrés sur nous-mêmes pour nous évaluer, mais que nous soyons centrés sur toi. Parce que c'est par la foi que nous marchons. C'est par tes promesses que nous avançons. C'est par tes compétences que nous servons.
Au Seigneur, nous ressemblons tellement souvent à Moïse ou à Pierre. Et nous sommes à côté. Et tu nous ramènes avec douceur, avec grâce. Tu nous donnes un accompagnateur, tu nous donnes des garanties. Tu nous rappelles que tu es avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, on te prie que tu rafraîchisses notre cœur pour rafraîchir notre service. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. On te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Nous, souvent, nous sommes en panne. Nous, souvent, nous ouvrons des parenthèses qui durent trop longtemps dans notre proximité avec toi. Mais Seigneur, rapproche-nous de toi. Que nous sachions demeurer en toi pour que tu demeures en nous et que nous portions du fruit. Seigneur, c'est la prière que nous voulons faire monter ensemble devant toi. Et on te loue pour toutes choses, Seigneur. Amen.
Amen.